Un plaisir pour nous. À chaque fois, on dit souvent que la famille Lisa en Suisse romande, c'est notre famille francophone. Quand on vient par ici, c'est toujours pour une rencontre de famille. Donc, comme on a chanté tout à l'heure, qu'importe les heures, qu'importe la route, même si c'est pour vivre avec vous seulement un culte, pour nous, c'est vraiment un plaisir et un privilège d'être parmi vous. Et je vous apporte aussi les salutations de notre pasteur Claudio Agosta et de notre église. Nous fréquentons l'église évangélique de Pentecôte de Locarno et nous habitons dans la Valle Maggia. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On habite où les gens viennent en vacances. On ne peut pas mieux faire. Hein? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de spécial pour nous. Et je veux préciser que je suis aussi suisse depuis quelques années, grâce à Dieu. C'est vraiment important pour moi cet accueil, cette inclusion en Suisse, avec les Suisses. David aussi est suisse. Nous sommes franco et italo-suisses. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort quand même. Voilà. Et c'est vraiment une émotion particulière pour moi, aujourd'hui, de pouvoir partager la parole dans ma langue maternelle, en français. Parce que j'ai quitté la France, j'avais 19 ans, pour aller étudier en Belgique, à l'école biblique. Et puis ensuite, je ne suis plus rentré en France pratiquement. Je suis allé vivre en Italie, et maintenant depuis 13 ans en Suisse. Et j'essayais de me souvenir quand j'ai pu prêcher en français, je crois que c'est après l'école biblique, donc il y a plus ou moins 40 ans, que je ne prêche pas en français. Donc je vous remercie vraiment pour cette occasion. Vous allez peut-être remarquer des drôles de mots. Je vais peut-être dire des mots qui sont ni français ni italien, mais c'est pas grave. Si vous ne comprenez vraiment pas du tout, vous me faites signe, c'est quoi que vous voulez dire? Et puis on reviendra un peu en arrière. Voilà. Alors, le thème que j'ai sur mon cœur depuis plusieurs semaines pour vous, c'est le thème de l'unité. Le thème de l'unité. Alors je parle pas de l'unité entre les différentes dénominations comme nous qui sommes pentecôtistes, calmes, tranquilles. Nous sommes des pentecôtistes tranquilles. Et puis je sais même pas à quel mouvement vous appartenez, mais c'est pas grave. Voilà, je parle pas de cette unité-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Parfait. On s'est bien compris. Voilà, je parle pas de ça. Je parle vraiment de l'unité qui est entre nous dans nos groupes, dans nos petits groupes, entre guillemets, dans les groupes locaux. Et moi, je ne sais rien du tout de votre façon de vivre l'unité. Je ne sais pas quels sont vos défis. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés à vivre l'unité entre vous. Cependant, je peux facilement imaginer que vous avez plus ou moins les mêmes difficultés que nous avons, nous, à vivre l'unité à Locarno. Et j'ai vraiment un cœur ce matin de nous encourager les uns les autres, pour rechercher constamment, construire constamment, vivre le mieux possible l'unité entre nous, parce que elle est précieuse aux yeux de Dieu. L'unité est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a beaucoup de valeur. Et Jésus l'avait particulièrement à cœur en ce qui concernait ses disciples, qu'il appelait, comme on l'a dit, ses amis. Et avant de les quitter, il a prié pour eux. Il les a bénis, justement, avec l'unité. Et cette bénédiction est efficace. Encore aujourd'hui, cette bénédiction due à exaucer la prière de Jésus, elle est efficace pour nous aussi, aujourd'hui. Alors nous allons lire quelques versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. C'est ce qu'on appelle un texte très connu, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Donc, on va lire quelques versets, pas toute la prière, mais ceux qui nous intéressent ce matin. Jean 17, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 11, et après je reprendrai plus loin. Et Jésus dit à son Père, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. C'est quelque chose de très fort que Jésus demande à son Père. Et plus loin, au verset 20 jusqu'à 23, là, Jésus prie pour nous. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, c'est-à-dire nous, au travers des siècles. Hein. Leur parole est arrivée jusqu'à nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà. C'est vraiment un texte merveilleux. C'est un texte à méditer. On ne peut pas le survoler comme ça en quelques secondes. Je vous invite à relire cette prière à la maison. C'est vraiment quelque chose de très important. Et ce qui me touche particulièrement dans cette lecture, c'est d'abord que Jésus prie afin que ceux qui croient puissent vivre dans l'unité avec Dieu. Il y a d'abord cet aspect de l'unité avec Dieu. Il le dit, qu'ils soient un en nous. Ce qui aurait été impossible pour nous, ça aurait été complètement impossible pour l'humanité d'être unie en Dieu sans l'œuvre du salut opérée par Jésus. Et ces chrétiens, de tous les temps, de tous les lieux, dont nous sommes nous aussi aujourd'hui, sont entre eux évidemment des personnes très différentes. Nous sommes des personnes très différentes les unes des autres, des époques différentes, des endroits différents, des cultures différentes. Chacun avec sa propre identité, avec son propre vécu. Et par la grâce de Dieu, toutes ces personnes dont nous sommes sont rendues capables de former une unité parfaite. Jésus parle de parfaitement un. Non seulement avec Dieu, mais aussi entre elles. C'est très fort, je trouve, hein? Comme si elles devenaient, toutes ces personnes, une seule entité dans laquelle on ne distingue plus vraiment l'un de l'autre et vivant entre elles une unité qui offre au monde qui l'entoure une image parfaite, très claire, de l'amour de Dieu et du salut au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Lors dans leur unité, le Père et le Fils partagent beaucoup de choses. Bien sûr, mais entre autres, ils partagent la même nature. Ils partagent le même amour. Ils partagent les mêmes intentions. C'est-à-dire, en premier lieu, vraiment en tout premier lieu, de se révéler à l'humanité et d'être réconcilié avec l'humanité. Ça, c'est l'objectif. Et c'est aussi la motivation de notre unité à nous, dans laquelle nous partageons, nous aussi, beaucoup de choses, mais entre autres, nous partageons la même nature d'enfant de Dieu, le même amour du Père qui coule en nous, pour nous, au travers de nous, et puis la même intention de révéler Jésus au monde. Ça, c'est vraiment notre intention, c'est notre objectif. Alors, comment peut-on être uni avec Dieu, être accueilli dans l'unité divine et être désuni? On dit ça en français, c'est correct, n'est-ce pas? Être désuni, c'est le contraire d'être uni. D'être désuni avec nos frères et sœurs. C'est impossible. C'est spirituellement impossible. Que nous le sachions ou pas, parce que peut-être que nous n'en avons jamais pris conscience, que nous le voulions ou pas, cette unité spirituelle à laquelle nous sommes invités avec Dieu a forcément pour effet l'unité entre nous et même malgré nous, même malgré nous. Jésus a prié pour cela, comme nous l'avons vu, et la bénédiction de Dieu est réelle et elle est efficace. Depuis c'est ma conviction, depuis cette prière de Jésus, il y a cette bénédiction de Dieu sur l'unité des croyants. Le Seigneur, quand j'avais 19 ans, justement, un soir, m'a parlé d'une façon très claire en me disant, je t'envoie vers les nations. Et je me suis dit, bon, missionnaire, j'avais pas du tout pensé à ça. En fait, j'ai jamais été missionnaire. Mais le Seigneur m'a vraiment envoyé parmi les nations. Je suis parti justement pour cette école biblique dans la région de Bruxelles. À l'époque, ça s'appelait Continental Bible College, Collège biblique continental, je sais pas si vous connaissez. Ensuite, j'ai pu, au cours de mon ministère, dans cette école biblique, il y avait 20, si mon souvenir sont bons, 26 nationalités différentes. Donc des jeunes, c'était une expérience merveilleuse, des jeunes qui provenaient du monde entier. Et puis par la suite, j'ai pu vraiment rencontrer et côtoyer des chrétiens du monde entier. J'ai collaboré aussi avec Jeunesse en Mission. Et puis on accueillait des teams qui venaient du monde entier, là aussi. Et à chaque fois, ça me touchait beaucoup. Il y avait un lien immédiat qui se créait. Quelque chose qui passait tout de suite, un courant. Et en fait, j'ai réalisé que ce lien-là ne se créait pas au moment de notre rencontre. Il existait déjà. Et on en prenait conscience en se rencontrant. Je ne sais pas si vous avez eu cette occasion de vivre ces moments-là. Vous rencontrez un frère, une sœur, que vous ne connaissez pas du tout. Ça passe tout de suite. Il y a un courant qui passe. Bien, c'est ça. C'est l'unité pour laquelle Jésus a prié et qui est active, qui est efficace. C'est le résultat de sa prière. Alors, quel privilège de pouvoir se retrouver entre nous, malgré tout ce qui peut nous différencier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous différencier. Mais on peut se retrouver entre nous dans cette unité qui lie Dieu, le Père et le Fils. Et cette unité peut transcender tout le reste, les différences de culture, des différences de toutes sortes, les incompréhensions. Parfois, on a vraiment du mal à comprendre l'autre. Peut-être même parfois les antipathies. Nous sommes unis, malgré tout. Et en fin de compte, nous ne devons vraiment rien faire de particulier pour vivre, pour jouir de cette unité avec les enfants de Dieu. Elle est déjà en nous. Elle est scellée par le Saint-Esprit. Par contre, parfois nous pouvons résister. Nous pouvons un peu la bouder, l'unité. Avoir du mal à l'accepter. Avoir du mal à vivre sereinement cette unité. Surtout avec certaines personnes. Je ne sais pas si vous voyez de qui je peux parler. Moi, j'ai mes personnes, vous avez les vôtres, j'imagine, qui sont vraiment trop différentes. On a parfois du mal à vivre cette unité. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce thème, mais je vous propose que nous regardions ensemble quelques instruments qui vont nous aider, qui peuvent nous aider à considérer l'unité, lui donner de l'importance et finalement pouvoir la vivre comme une bénédiction, parce que c'est une bénédiction. Le premier point, c'est vraiment que nous puissions décider d'une façon consciente d'accueillir et d'aimer l'autre tel qu'il est. Accueillir et aimer l'autre tel qu'il est. Vraiment? Tu es sûr? Ouais, je crois que c'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. C'était son choix pour nous. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, à partir du verset 6. Romains chapitre 5, verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, que lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Je trouve cet texte, toute la Bible est merveilleuse, mais ce texte me parle beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ce comme un crescendo, comme on dit chez nous, un crescendo de Paul. Il dit, lorsque nous étions sans force, incapables de faire le bien et surtout incapables de nous sauver nous-mêmes, Jésus est mort pour nous. Plus que cela, nous étions des pécheurs. Nous allions contre la volonté de Dieu. Et pourtant, Christ est mort pour nous. Et encore plus haut, nous étions même ses ennemis. Paul sait de quoi il parle, hein. Il massacrait l'Église. Nous le combattions, nous combattons Dieu. Qu'importe, Christ est mort pour nous. Alors, je me dis, il n'y avait vraiment rien en nous, dans notre façon d'être, notre façon de penser, rien qui pouvait justifier un renoncement de la part de Christ. Je vais mourir pour tout le monde, sauf pour voilà, une catégorie. Non, non, non. Rien ne pouvait justifier un renoncement de la part de Christ envers nous. Il est venu à notre rencontre. Nous, ses ennemis qui le combattions. Il est mort pour nous, tels que nous étions, parce que le Père nous a toujours aimés comme ça. Le Père nous a toujours aimés, nous aime toujours tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Sans condition. Et il a tout fait. Vraiment tout fait. Tout voulu, tout mis en œuvre pour nous accueillir et être réconciliés avec nous. Où nous étions. Et aussi pour nous réconcilier entre nous. Merci Seigneur. Alors je ne dis pas que parfois l'autre devrait vraiment changer. Hein. Peut-être pensez-vous à quelqu'un ou à quelqu'une. Hein. Moi oui, j'ai ma petite liste. J'aimerais bien que celui-là soit comme ça, cet autre-là change ça. Mais combien devons-nous changer nous-mêmes? Parfois, on est tellement occupé à penser que les autres sont tellement compliqués qu'on en oublie combien nous sommes compliqués nous-mêmes. Ma femme peut vous le dire, je suis parfois très compliqué. Et je parle pour moi, hein, pas pour vous. Je suis compliqué. Oui. Et parfois, j'oublie que je l'oublie. Je regarde les autres et puis je me dis, voilà, oh ils sont compliqués. Et je m'éloigne. Quelqu'un dit qu'il n'existe pas de personnes difficiles, mais des personnes avec des vécus difficiles. C'est un peu notre histoire. Nous avons des vécus plus ou moins difficiles, qui demandent de la grâce. Mais en tout cas, ce que les autres devraient changer pour devenir acceptables par nous, ce n'est pas, comment on dit, nos oignons. Je ne sais pas si vous dites ça par ici, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre business, pas du tout. Notre responsabilité, notre affaire, c'est de changer nous-mêmes en collaboration avec le Saint-Esprit et de laisser l'Esprit faire son œuvre dans le cœur de nos frères et sœurs pour les changements qu'eux-mêmes doivent opérer. Parce que Dieu est à l'œuvre. On l'a dit tout à l'heure et c'est tout à fait vrai. Dieu est à l'œuvre pour intervenir dans leur vécu. Dieu est à l'œuvre pour apporter de la libération, du pardon, de la guérison, exactement comme il veut le faire pour nous-mêmes. Je sais pas si vous avez l'occasion de regarder la télévision française. Vous regardez la télévision française? C'est pas, c'est juste une question, voilà. Et on n'est pas obligé, pas du tout. Non. Mais moi, l'après-midi, c'est une chose que je fais aussi, je suis très actif aussi comme curateur. On n'a pas dit ce qu'on fait dans notre vie, mais c'est pas grave. On travaille dans le social tous les deux, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, quand je fais le curateur, je travaille à la maison et parfois j'allume la télévision et je me suis affectionné à une émission qui s'appelle Affaires conclues. Je sais pas si vous connaissez des gens qui vendent des objets, ils apportent des objets et puis il y a des acheteurs, des collectionneurs, des antiquaires, des experts et puis ils donnent une valeur à ces objets et parfois il y a des objets qui sont très beaux, qui ont beaucoup de valeur. Et puis j'ai remarqué que les collectionneurs aiment bien quand les objets sont dans leur jus. Je sais pas si vous avez entendu. Vous connaissez cette expression? Il est dans son jus. On comprend ce que ça veut dire. Hein. Il a vécu. Il a, voilà. Il a eu un parcours. Voilà. Et c'est une nouvelle expression. À chaque fois, ça m'est arrivé souvent de rentrer en France et puis ils disent des trucs que j'ai jamais entendus. Comme ça, par exemple. Hein. Il est dans son jus. Hein? Oui, c'est intéressant, mais on comprend tout de suite. Hein, dans son jus. Voilà. Et je crois que nous pouvons apprendre ça, à accueillir l'autre, à l'accepter dans son jus. Hein? Voilà. Il a vécu des choses difficiles, il a eu des parcours difficiles, il est dans son jus. Ça fait rien. C'est même mieux. Acceptons-le comme ça, et puis laissons le Seigneur faire le boulot de la restauration, hein, de remettre en l'état selon ce qu'il veut, lui. Dieu est vraiment à l'œuvre, il intervient au bon moment, il change les personnes, comme il nous change nous. Si vous saviez comment Dieu m'a changé, il change les situations. Et nous pouvons lui faire confiance. À partir de là, nous pouvons lui ouvrir nos cœurs, ouvrir nos bras aux autres, même à celui et à celle qu'on a vraiment parfois du mal à comprendre ou à supporter. Alors c'est vrai que c'est parfois difficile. Ça demande de lâcher prise, hein, de laisser Dieu s'en occuper. C'est difficile parce que ça touche à notre orgueil. Nous voudrions résoudre nous-mêmes. Nous voudrions être indépendants. Nous avons aussi un grand besoin de justice auquel on ne veut renoncer en aucun cas. Que justice soit faite. Hein. Ça, on tient vraiment à ça. Laissons au Seigneur. Alors, c'est un exercice spirituel parfois complexe qui se résout vraiment seulement avec l'aide du Seigneur, avec son amour. On peut lui demander, Seigneur, donne-moi ton amour. Mets dans mon cœur ton amour pour cette personne pour laquelle j'ai du mal. Donne-moi ton amour, donne-moi ta façon de voir. Comment tu la vois, Seigneur? Donc, soyons disponibles pour accompagner, pour écouter, pour encourager, pour prier, mais résistons à la tentation de vouloir changer l'autre pour le rendre plus unifiable. Alors, si je sais pas si ça se dit, mais vous comprenez, qu'il puisse s'unir à nous. Résistons à la tentation de vouloir transformer l'autre. Notre but premier doit être de l'accepter tel qu'il est, tel qu'elle est, de l'accueillir exactement comme Dieu fait avec nous. Et ça va vraiment développer l'unité entre nous. Alors, il peut être plus utile parfois de mettre des limites. D'accord? Je comprends. Il faut être prudent parfois avec certaines personnes. Avoir des limites claires. Mais on peut mettre ou dire des limites avec amour. Pas pour repousser l'autre, mais pour se protéger. Hein, ça peut être utile parfois. Voilà. Mais parfois, je me demande, mais comment nous ferons au paradis? Hein? Peut-être que le ciel est énorme, donc le Seigneur mettra des groupes comme ça, hein, ceux qui s'aiment bien, puis voilà. Non, je crois pas. Je crois que la vérité, c'est vraiment quand nous serons au ciel avec le Seigneur, nous serons tellement finalement débarrassés de toutes ces entraves charnelles qui nous rendent la vie compliquée parfois. Hein. Merci Seigneur, parce qu'on a une grande espérance. Donc ce premier aspect, c'était vraiment accueillir l'autre tel qu'il est. Hein, le faire avec l'aide de Dieu, avec son amour. Et puis, je voudrais vous parler d'un thème cher à nos cœurs de famille Lisa, qui nous occupons des couples, c'est le thème de la complémentarité. Mais ce thème de la complémentarité n'est pas inspiré à Lisa. Hein. Elle est inspirée au corps de Christ. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 12. C'est l'image du corps, très simple. Il parle beaucoup. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Le corps, c'est l'apôtre Paul qui parle, forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Voilà notre lecture. Donc cette recherche de la complémentarité qui existe dans l'Église, c'est vraiment un aspect très pratique et très utile pour grandir dans l'unité. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de nous passer les uns des autres. Surtout quand il s'agit de notre intention de révéler Christ au monde. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est exactement ce qu'explique Paul au travers de cette simple image du corps, dans lequel chaque membre, chaque organe a sa place, sa fonction spécifique, un rôle très précis qu'aucun autre membre ou organe peut remplacer. L'estomac ne peut pas respirer et les poumons ne peuvent pas digérer. Et chacun est ce qu'il est par le choix souverain de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes dans le corps, même dans le corps local, par le choix souverain de Dieu. Et chacun est précieux pour tout le corps. Alors je pense qu'il faut vraiment développer la complémentarité les uns par rapport aux autres. Et comme pour l'unité dont nous parlions tout à l'heure, elle est déjà là, cette complémentarité. On doit la développer. C'est Dieu qui l'a créée. Elle est déjà en nous. Chacun d'entre nous est complémentaire pour les autres. On doit seulement en prendre conscience et le développer. Donc on en parle parfois avec les couples, on les aide à. On a fait cet été, on a fait une réunion avec une rencontre avec les couples dans un jardin, une belle soirée sur ce thème-là. Et puis on les a invités à réfléchir sur cette unité, sur le fait qu'ils sont deux personnes distinctes, des personnes parfois très différentes entre elles, mais qui se complètent dans l'union conjugale. Et leur choix réciproque au début, même si c'est inconscient, a été guidé justement par ce besoin d'être complémentaire. Comment on dit? Complété, merci. Ma femme qui parle italien, qui me corrige en français, merci Vital. Ouais, c'est ce choix d'être complété par l'autre. Un besoin inconscient de complémentarité, chacun cherchant chez l'autre ce qui lui manque. C'est ce qui nous a guidé notre choix au début, avant de nous marier. Et un des secrets de la relation matrimoniale, c'est justement de pouvoir jouir continuellement de cette complémentarité entre nous. Alors c'est une comparaison imparfaite parce que normalement les conjoints se choisissent normalement, hein. Et dans nos relations avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, eh ben on choisit personne, hein. Voilà. On ne choisit personne. C'est le Seigneur qui nous choisit. C'est lui qui nous a choisis, qui nous a appelés, qui nous a mis ensemble. Il nous a tous et toutes choisis de la même façon. Et lui, il est le lien suprême qui nous unit et qui nous oblige entre guillemets, hein, à rechercher toujours plus l'unité qu'il doit y avoir dans sa famille. Alors ne permettons pas que les différences entre nous puissent créer des divergences, des séparations. Apprenons au contraire à faire de ces différences un enrichissement. Hein? Ce que nous avons à apporter, donc c'est une force, c'est une ressource dont nous avons vraiment besoin pour l'intérêt suprême de la volonté de Dieu et de son royaume. Apprenons à nous poser la question. Qu'est-ce que l'autre, même celui ou celle que j'ai du mal à comprendre, à accepter, qu'est-ce que l'autre apporte au royaume de Dieu que moi je n'apporte pas? Il y a forcément quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur lui a confié de précieux qu'il ne m'a pas confié à moi, mais à lui ou à elle? Même si j'ai du mal à comprendre cette personne, à l'aimer, à l'accepter, qu'est-ce que Dieu lui a confié? Alors, c'est une idée, ça ne signifie pas, bien sûr, que les autres s'unissent à moi pour me compléter dans mon projet à moi. Non, non, pas du tout. Hein. Mais nous sommes unis les uns aux autres dans le projet de Dieu pour que sa volonté soit faite. Et nous collaborons, comme nous avons chanté tout à l'heure. Hein. Nous collaborons avec Dieu en mettant ensemble ce que lui nous a donné, le rôle qu'il nous a confié. J'ai encore un peu de temps, ça va. J'ai presque fini. J'ai juste un petit encouragement, quelque chose qui m'a beaucoup touché, quand j'ai étudié pour devenir suisse. J'ai étudié, vous savez, on doit étudier. Même le monsieur qui m'a fait l'examen m'a dit, mais vous en savez plus qu'un Suisse. J'ai dit, bon, merci. Et puis il m'a posé des questions, pouvez-vous me nommer trois Suisses connus, très très Suisses. J'étais complètement paumé. Par contre, je savais tout sur la politique, l'histoire, la géographie, j'étais très préparé. Et puis aussi, quand il m'a demandé si je savais ce qu'était l'ovo maltine. Je dis, oui, c'est une boisson chocolatée, il me semble, en fait, que pas du tout. Non, mais c'est sous quelle forme? Alors j'essaie de m'imaginer, de me souvenir, c'est comment la boîte de l'ovo maltine déjà? C'est une boîte ovale. Non, non, mais c'est quoi? C'est un liquide? Vous voulez savoir la forme de l'ovo maltine? C'est un liquide, une poudre. Enfin bref, excusez-moi, je suis parti ailleurs, c'est pas du tout c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce qui m'a vraiment touché dans en considérant le système politique suisse, c'est le consensus. Voilà, cette culture du consensus politique qui guide le fonctionnement du conseil, en particulier des conseillers fédéraux, qui sont élus des principaux partis suisses et qui sont eux-mêmes l'expression de la volonté du peuple. Et leur but de nos chers conseillers fédéraux, c'est d'agir dans l'intérêt suprême du peuple. Donc, toutes leurs décisions sont guidées par le devoir de respecter la volonté du peuple, sans permettre que des divergences de partis viennent bloquer le processus décisionnel. Le consensus. On recherche constamment le consensus. Ça, c'est quelque chose de précieux. Qui consiste à ne pas se fixer sur ce qui nous sépare, mais plutôt à rechercher ce qui nous unit. Même si cela demande de la flexibilité, même si cela demande de renoncer à quelque chose, sacrifier quelque chose. Alors je ne dis pas que c'est toujours nécessaire d'avoir ce consensus, mais ça peut être parfois très utile, hein, quand on est bloqué par quelque chose. Alors à quoi je peux renoncer? Comment on peut aller de l'avant? Hein, je trouve que c'est vraiment un exemple très encourageant de la part de nos conseillers fédéraux. Et j'ai découvert ensuite que c'était vraiment la pensée suisse, hein, d'être ensemble, l'union nationale, voilà. Pour un Français, c'est merveilleux ce système-là. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple ici parce qu'on c'est un pays plus petit, mais je trouve que c'est vraiment formidable comme façon de faire. Alors l'Église, qui est l'expression de la volonté de Dieu, et elle agit dans l'intérêt suprême du royaume de Dieu, et elle a Christ comme fondement, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire que Jean-Paul nous a racontée. Et sur cette base, nous pouvons fonctionner ensemble, faire la volonté de Dieu, faire les affaires de Dieu. Chercher à avoir soin de ses intérêts, surtout en ce qui concerne notre témoignage au monde. Et si nécessaire, n'hésitons pas à rechercher le consensus. Alors, la grande différence avec les conseillers fédéraux, c'est que nous sommes tous du même parti. Nous ne sommes pas du parti de Pierre ou de Paul ou même de Jean-Paul. Nous sommes tous du parti de Christ et nous agissons dans son royaume, dans le royaume de Dieu. Alors, à plus forte raison, hein, cherchons le consensus. Voilà. En conclusion, vraiment, cette unité qui est une importante clé spirituelle, c'est une importante clé spirituelle, mais elle s'applique de façon très concrète dans nos relations. Elle révèle notre cœur d'enfant de Dieu, d'un Père plein d'amour, même pour les autres, même pour ceux qu'on a du mal. Et elle nous demande un choix fort de la vivre, parce qu'elle est en nous, mais elle nous demande de faire ce choix de vivre l'unité dans nos relations. Elle nous encourage à nous rendre disponibles pour les autres, à créer des opportunités. Je crois qu'aujourd'hui, on va manger ensemble. Hein? Vous le savez? Ils le savent? Vous êtes tous invités. Hein? Ça, c'est une belle occasion, c'est une opportunité très pratique de vivre l'unité, de mieux se connaître. Persévérer à marcher ensemble de façon très pratique, malgré tout, contre tout et envers tout. Même parfois s'il faut sacrifier quelque chose. Si nous regardons l'exemple de l'Église primitive, on voit au tout début, il est dit que l'Église témoignait en vivant l'unité dans toute chose, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans le partage, dans les maisons. Ils avaient vraiment une dimension très familiale. Et puis au chapitre 4, il est écrit que la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, pardon, et qu'une âme. Leur secret, c'était qu'ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'unité. Alors cela nous encourage à insister, à savoir renoncer, à savoir se sacrifier, à être flexible, disponible et ouvert aux autres. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous aide vraiment à vivre l'unité comme une bénédiction. Amen. Oui, bien sûr, volontiers, oui, bien sûr. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Père. Merci Seigneur Jésus d'abord pour cette prière merveilleuse que tu as adressée à ton Père avant de quitter tes disciples. Merci Père pour cette unité pour laquelle tu as prié. Et merci Père Céleste d'avoir exaucé la prière de ton Fils. Merci pour cette unité qui nous lie à vous, à toi, qui nous lie entre nous. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici, pour chacun d'entre nous, que nous puissions prendre toujours plus conscience de cette unité qui est en nous, que nous puissions la développer, et que cette unité devienne vraiment une bénédiction, une source de joie dans nos vies et dans notre communauté. Et qu'au travers de cette unité qui va se développer entre nous, que nous puissions être des témoins toujours plus visibles par le monde qui est autour de nous. Parce que c'est ça l'objectif. Vraiment que nous puissions te révéler au monde. Merci Seigneur de nous encourager, de nous prendre par la main et de nous guider sur cette voie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.